Interview.
10 sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Laurent Caudron, bonjour.
Bonjour.
Caudron comme un chaudron mais sans le H.
Exactement.
Coach en recherche d'emploi par exemple.
Par exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Malheureusement, le coaching c'est devenu tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai commencé à faire ça, à accompagner des cadres et des dirigeants d'entreprise, c'était en 1995, et à l'époque ça n'avait pas de nom, j'étais juste consultant, et puis le coaching est devenu à la mode, et maintenant il y a des coachs de séduction, des coachs de réussite, des coachs de ceci, des coachs de cela. Ben, coach à la base c'est américain, anglais, ça veut dire entraîneur, et c'est donc former, aider, stimuler les gens à obtenir un meilleur résultat. Là, si on est vraiment dans le domaine sportif. Dans le domaine professionnel, et surtout en France, où on a tendance à mettre des cases un peu partout, pour que ça soit très, très net, très clair, le coaching, c'est un accompagnement de la personne à des fins professionnelles, grosso modo, pour qu'elle obtienne plus vite, plus facilement, plus rapidement le résultat qu'elle veut. Que ce soit une amélioration de son management, que ce soit pour mieux communiquer, que ce soit pour se repositionner professionnellement ou pour prendre une fonction ou pour évoluer dans sa carrière, trouver un peu plus de charisme ou de choses comme ça.
Cela va-t-il au-delà de simplement prendre une tierce personne pour extérioriser son regard, sortir la tête du guidon ?
Alors, il y a cet aspect-là qui est effectivement une écoute et un miroir de la personne qui lui renvoie éventuellement ses incongruences entre ce qu'il fait, ce qu'il dit ou ce qu'il voudrait. Mais il y a au-delà de ça, de la part du coach, une expérience de manager déjà pour savoir accompagner les personnes. Il faut encore qu'il sache de quoi il est question. Il est normalement nécessaire d'avoir fait un travail sur soi, donc un travail thérapeutique pour ne pas se trimballer ses casseroles, projeter ou être dans le jeu de pouvoir sur son client. Et enfin, il y a toutes les techniques d'accompagnement avec des outils qui, en France, les plus fréquentes sont la PNL, programmation neurolinguistique, la systémique, la gestalt, le process communication management. Donc, on a des beaux outils qui sont très, très ronflants dans les termes et qui sont basés souvent sur la thérapie et sur la communication.
Alors, j'ai entendu une expérience. Avant même de penser devenir coach, cette expérience, on l'apprend sur le terrain, vraiment, en étant soi-même un entrepreneur.
Un entrepreneur, pas nécessairement, mais de préférence un manager, puisque les personnes qui sont accompagnées sont plutôt des dirigeants ou des cadres. Donc, il faut avoir cette expérience de cadre et, si possible aussi, de cadre en ayant dirigé des personnes, des équipes, voire une entreprise, parce que du coup, ça donne ce savoir-faire, cette culture qui n'est pas celle d'une école. On a été confronté à de vraies expériences réelles avec des vrais gens, des vraies situations qu'on ne trouve pas dans les bouquins. Et aussi, ça donne le recul nécessaire sur la vie qu'on a pu avoir en tant que cadre pour accompagner la personne.
Alors, c'était quoi la vie de Laurent Caudron avant d'être coach ?
Alors, la vie de Laurent Caudron avant d'être coach, c'était le parcours programmé du jeune homme de bonne famille qui a fait une école de commerce. Moi, j'aurais voulu être un artiste, pourquoi pas. Et donc, j'ai fait une école de commerce. Derrière ça, j'ai bêtement trouvé un emploi de commercial et agent administratif. Et après ça, je suis devenu cadre. Ensuite, je suis devenu chef de service.
Dans une grosse boîte ?
Une grosse, 4500 salariés.
Ouais, quand même.
Déjà
ouais.
Une vraie boîte. Non, je suis devenu chef du service audit interne. Donc, j'étais le chef gestapiste. C'est-à-dire que je devais m'assurer que les normes, les procédures, la comptabilité, les inventaires, tout ça était carré, respecté. Puisque le rôle de la compta, c'est de traduire en chiffres la réalité de l'entreprise. Le rôle de l'audit, c'est de valider que cette comptabilité est bien conforme.
Joyeux.
C'était passionnant. Oui, j'étais en costume gris, j'avais un manteau noir et c'était très bien. D'ailleurs, j'ai fait ça pendant 5 ans Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans le métier, c'était ni la compta, ni la finance, ni les procédures, mais les gens. Les gens que j'avais en face de moi. Et en fait, je passais mon temps à les poser des questions, à regarder comment ils faisaient. Déjà pour m'assurer que c'était conforme à ce qu'ils étaient censés faire, mais aussi parce que je trouvais ça d'une richesse infinie. Le même métier dans deux unités différentes était fait complètement différemment, avec la même finalité, mais selon les personnalités. Et ce que j'appréciais, et je pense que les gens appréciaient aussi chez moi, c'est qu'ils faisaient comme ils voulaient pourvu que le travail soit bien fait. Donc c'est là où je m'écartais de la casquette un peu gestapiste.
Oui, parce que j'allais revenir sur ce terme employé tout à l'heure, là, quand même, la Gestapo, en plus, elle flingue et elle élimine un peu ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas droit dans ses bottes, bah, justement.
C'est-à-dire que l'image que voulait véhiculer la direction générale, c'était ça, c'est que j'étais là pour faire respecter l'ordre et faire peur. Et j'étais le mandaté de la direction générale et en fait, je rendais compte à mon directeur qui lui-même rendait directement compte au PDG. Et parfois même, une fois, j'ai voulu rentrer dans un magasin que je devais superviser, enfin auditer, et le directeur qui n'était pas informé, ce qui était normal, parce que comme ça, il n'avait pas le temps de cacher quoi que ce soit, donc il n'a pas voulu me laisser rentrer parce qu'il ne me connaissait pas encore. Donc moi, coup de téléphone à Paris, aussitôt le PDG, coup de téléphone au directeur, et après j'ai eu droit à des courbettes. C'était triste même, parce que bon, c'était pas comme ça que c'était censé se passer, mais j'étais vraiment mandaté par la direction qui voulait voilà, qu'on fasse respecter ces règles et ces consignes.
Alors pour terminer sur ce parcours-là, quand même, goûter à ce point au pouvoir et toucher du doigt la soumission presque, quel effet ça fait
justement. Là encore, c'était rien. Le pire que j'ai connu, c'est quand j'ai travaillé pour le département de l'Ariège au pôle de développement économique et où une fois le directeur étant indisponible, il m'a envoyé à sa place, mandaté, pour une réunion dans un village où il y avait une source qu'il voulait exploiter. Donc il fallait de gros investissements de la part de l'État, de la région et d'investisseurs privés. Et quand je suis arrivé, il y avait 3-4 personnes qui m'attendaient, pas au point de m'acclamer, mais c'était presque. On m'a fait rentrer dans la salle avec des courbettes. Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez quelque chose, ça s'est bien passé, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? On m'a mis sur une estrade quasiment en plein centre avec mon nom écrit en grand, le micro, le verre, comme à la télé. Et les gens faisaient des courbettes. Et je me suis dit, mais bien sûr, les politiques doivent adorer ça. Parce que s'ils ont choisi cette vocation, ce métier, c'est bien parce qu'ils cherchent le pouvoir. Et sentir cette espèce de toute puissance vaine, mais néanmoins présente, et que les gens vous fassent des courbettes et soient prêts à tout pour vous faire plaisir, pour obtenir peut-être un jour quelque chose en échange, ça peut corrompre facilement. Et là, ce n'était que sur les apparences du pouvoir. Alors si on imagine en plus l'argent et le vrai pouvoir de pouvoir placer ses copains, sa famille, avoir des voyages, des avantages inconsidérés comme, je vais pas me lancer dans la politique, on n'est pas là pour ça ce soir. Mais si on prend nos anciens présidents de la République, ils ont chacun un garde du corps, minimum. En fait, ils sont trois puisqu'ils doivent être là non-stop. Ils ont un chauffeur, ils ont un logement de fonction, ils ont une secrétaire, tout ça payé par nos impôts. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que justifié? Je ne sais pas, mais ils ne veulent pas s'en passer. Et comme c'est eux qui déterminent les lois, bon, c'est comme ça. Personnellement, ce n'est vraiment pas le genre de truc qui m'intéresse.
Et sur cette notion de pouvoir, ça me permet de faire un pont comme ça avec le thème un petit peu de notre rencontre ici à la radio aujourd'hui. Et sur la recherche d'emploi notamment, tout bon chercheur d'emploi s'est retrouvé parfois dans une situation à devoir faire des courbettes lui aussi, quémander, prier. La précarité quand on est dans une situation de recherche d'emploi face à des employés qui parfois soit n'ont pas de solution, ça c'est au mieux, ou au pire ne veulent pas en donner.
Alors justement, s'avilir, faire des courbettes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne permet pas d'obtenir. Et en plus de ça, ça vous déconsidère et ça vous décrédibilise vis-à-vis de votre... vis-à-vis. C'est-à-dire que votre interlocuteur, s'il voit que vous êtes un pleutre, un lâche, un soumis, ça risque de ne pas lui plaire parce que, sauf si on tombe sur un dictateur né qui a envie de dominer, mais ce n'est pas ça qui va apporter de la richesse à l'entreprise. Donc, ce n'est vraiment pas l'attitude à avoir. Au contraire, il faut que vous soyez clair dans qui vous êtes et dans ce que vous voulez. En fait, si on prend les étapes pour la recherche d'emploi, la première chose à savoir, c'est que les annonces ne représentent même pas 25% des postes à pourvoir. Donc, si quand vous répondez à une annonce, vous avez un ton larmoyant dans votre lettre de motivation, c'est même pas la peine. Le recruteur va la mettre tout de suite de côté.
C'est-à-dire ce chiffre-là, c'est pourquoi? C'est parce que en fait, la plupart du temps, c'est vraiment des gens qui vont se déplacer jusqu'à l'entreprise plus alors, que des réponses d'annonce.
Alors, là, je vais prendre ma casquette de recruteur, ce que j'ai été en tant que chef d'entreprise et ce que j'ai connu en tant que consultant. L'entreprise qui a un besoin, et je vais prendre le cas plutôt des PME parce que c'est quand même là qu'il est plus facile d'être en contact direct avec les personnes. L'entreprise a un besoin et l'entrepreneur, il a une peur, c'est de se rater. Parfois, on a intermédiaire. L'intermédiaire, ça peut être l'ANPE. Enfin, maintenant, ça s'appelle, Pôle emploi.
Pôle emploi. Mmh.
Donc, on a soit un intermédiaire Pôle emploi, soit un intermédiaire qui est un cabinet de recrutement. Et chacun a leurs objectifs et leurs craintes. Moi, j'ai connu le côté cabinet de recrutement, puisque j'ai un de mes collègues qui faisait ça. Lui, c'est sa raison d'être. C'est son mode de fonctionnement. C'est son entreprise qui dépend des succès qu'il aura dans ses recrutements. Alors, la première chose qu'il fait quand il rencontre la personne qui a un besoin, c'est qu'il doit précisément délimiter le profil de la personne recherchée. Donc, ça peut prendre des heures pour être sûr de ce que veut l'entreprise, comprendre ce que la personne recrute, parce qu'il y a la version officielle. Ben voilà, je veux un chariste. D'accord, mais un chariste, il y en a des centaines. Qu'est-ce que vous avez de spécifique? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Oh, bah, bien sûr qu'il soit à l'heure. Oh, bah, bien sûr qu'il ne soit pas syndiqué. Oh, bien sûr qu'il puisse travailler un peu plus que ce qu'on a besoin de faire normalement, parce que parfois on a des coups de bourre. Et aussi qu'il soit sympa, et aussi qu'il soit souriant, et aussi qu'il sache intégrer à l'équipe existante, et aussi qu'il ne soit pas ceci. Et ça, c'est rarement dit dans l'annonce. Et donc, c'est le travail du cabinet de recrutement ou c'est le travail éventuellement du candidat de percevoir tout ce que l'entreprise attend en plus. Il faut savoir ce que coûte un recrutement. Pour l'entreprise, c'est un pourcentage du salaire quand c'est des cadres et ça peut aller entre 40 et 70 000 euros. Pour une entreprise, c'est un coût. Un recrutement en interne dans une grande entreprise, on l'estime à environ 4 000 euros. Entre les frais de mobilisation des personnes, des cadres, des managers, des gens qui vont avoir décrypté le poste à pouvoir, de l'accompagnement qui va être fait du nouvel entrant qu'il faut surveiller, encadrer, former, plus des postes qui sont libérés d'un côté pour remplir les autres. Donc, ça a un coût pour l'entreprise, que ça soit en externe ou en interne. Donc, l'entrepreneur, je reviens à ça, l'entrepreneur qui cherche à embaucher, il ne veut pas se rater, surtout si c'est une PME, parce que son entreprise dépend de la personne qui va rentrer chez lui. Donc, s'il voit arriver quelqu'un de timoré, de timide, qui a peur, qui s'avilit, il se dit, mais non, ce mec-là, il ne va jamais pouvoir prendre sa place, il ne va jamais pouvoir représenter et travailler dans mon entreprise. Dès qu'il va y avoir un courant d'air, il va s'aplatir. Donc, ça ne va pas. Donc, la personne qui recrute a besoin d'être rassurée avant toute chose. Rassurée qu'il fait le bon choix de la bonne personne pour le bon poste tel que lui le perçoit. Et parfois, le recruteur n'a même pas conscience de tous les aspects du poste qu'il a à pourvoir. Parce qu'il voit le besoin immédiat, mais il ne voit pas les personnalités. Il ne voit pas ce que la nouvelle personne pourrait éventuellement lui apporter de plus parce que lui voit son besoin instantané et il a peur.
C'est intéressant cette opposition cabinet de recrutement avec Pôle emploi, puisque finalement, Pôle emploi, on s'imagine qu'ils n'ont jamais le temps d'avoir cette approche-là avec l'entreprise, d'être bien au courant de qu'est-ce qu'ils doivent recruter.
Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la formation et ce n'est pas leur vocation.
Et donc, d'où la difficulté pour le chercheur d'emploi.
Chercher un emploi via Pôle emploi, c'est extrêmement difficile parce que Pôle emploi n'a que des grilles préformées. Et alors, vous avez le diplôme? Oui, non. Vous avez l'expérience de 5 ans demandée? Oui, non. Bon, alors on élimine. Vous pouvez être plus compétent, plus pertinent pour l'entreprise, mais ça ne rentre pas dans ces grilles, donc éjecté. Sachant que même pas 25% des postes apparaissent dans les annonces, ce n'est pas là qu'il faut les chercher. C'est là que c'est le plus difficile, non seulement parce que la plupart des postes intéressants sont déjà pourvus, mais aussi parce que vous allez être en concurrence avec des centaines de personnes. Pourquoi est-ce que seulement 25% apparaissent? Pour revenir à la question de tout à l'heure,
eh oui.
C'est parce que d'abord, l'entrepreneur ou le chef de service ou le DRH qui doit pourvoir un poste va d'abord se demander comment trouver la personne à moindre risque. Pas forcément à moindre coût, mais à moindre risque. Et le moindre risque, c'est voir est-ce qu'on n'a pas déjà ça sous la main. Soit en interne, soit par cooptation. Au fait, Tartampion, vous n'auriez pas quelqu'un à me recommander pour le poste de soudeur truc? Ah bah si, justement, j'ai un cousin, j'ai un neveu, je connais quelqu'un.
Ouais, c'est comme ça que ça se fait. Cooptation est le piston.
Ouais, c'est ça. Bah, le piston, c'est le mauvais côté des choses. Ça peut arriver. Ouais. Mais ce n'est pas que ça. Le piston, c'est une infime partie de ce qui se passe et que les gens ont besoin de trouver en étant rassurés. Donc, si quelqu'un nous le recommande, ça peut être un proche, un ami, un collègue, un confrère, un employé de la boîte qui dit hey, « moi, je connais quelqu'un qui sait très bien ». La personne qui coopte, qui pistonne, si on veut dire, prend le risque, si elle fait rentrer un tocard, oui, de se décrédibiliser. Donc, le piston, ça marche quand ça vient d'en haut. Parce que le frère du PDG, le fils du neveu du PDG, ça oui, je l'ai vu. Et c'est catastrophique.
Enfin, le mauvais piston, donc.
Ah oui, ça c'est l'affreux. Ouais. À l'armée, il y a aussi parce que, ah, fils de général, donc on va le mettre à telle place. Et il n'est pas compétent. Donc quand ça vient d'en haut, le piston est souvent mauvais. Quand c'est une cooptation, quand c'est une recommandation, là, en général, c'est bien pour tout le monde. La personne qui a fait rentrer quelqu'un de bien, quelque part, se fait bien voir par sa hiérarchie. Et la personne qui est rentrée est contente. Et la personne qui recrute est sécurisée parce que si on l'a recommandée, c'est on pense, à juste titre ou pas, mais on peut penser que la personne recommandée est valable. Donc déjà, une bonne part des emplois sont trouvés comme ça. La deuxième partie, c'est bon, le DRH, il doit recruter quelqu'un. On n'a personne sous la main qu'on connaisse ou qu'on nous recommande. Qu'est-ce qu'on a dans nos fichiers? Ah ben, on a déjà reçu une candidature une fois et on a reçu la personne qui avait insisté. Ah ben, celle-là, elle était bien. Ben, elle est peut-être encore disponible. On l'appelle. Ça se fait comme ça. Après, il y a les réseaux. On n'est pas tout à fait dans la recommandation ni dans le piston, mais le réseau, c'est quand des dirigeants se rencontrent dans des colloques, dans des réunions, dans des salons. Parfois, ils échangent et ils disent « Ah ben là, on a un besoin pour tel truc. Ah ben justement, je connais machin dans telle boîte, il a dû licencier parce que mais ce mec-là était très bien. » Hop, et voilà.
Ils se les font tourner comme ça un peu. Ouais.
Ouais. Après, le dernier aspect, c'est les gens qui ont déjà fait une démarche. Alors, pour faire un terme que les gens utilisent, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ça fait chic, proactif. En fait, ils ont simplement agi, quoi, en clair.
La candidature spontanée.
C'est la candidature spontanée. Et la candidature spontanée a ce grand avantage d'être formulée en fonction de vous et pas forcément en fonction de l'entreprise.
Et en plus, l'entreprise n'a pas de besoin au moment où on l'envoie.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Ou alors un besoin qui est frémissant, mais on n'a pas encore pris le temps ou la peine, on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour. Mais, ah, tiens. Parce que la personne qui fait la candidature spontanément, elle a repéré l'entreprise pour diverses raisons. Mais d'abord, elle va vouloir se vendre elle. Et c'est la meilleure des choses à faire. Il ne faut pas vouloir faire plaisir à celui qui est en face. Il faut d'être soi-même. Si vous avez des compétences, eh ben, mettez-les en avant. Et si ces compétences correspondent aux besoins de l'entreprise, elle n'a qu'une envie, c'est recruter la bonne personne. Donc si vous avez les bonnes compétences, youpi. Il faut voir que quand on paye quelqu'un, un salarié, si je vous donne le SMIC à l'entreprise, vous coûtez le double. Avec les charges, les impôts, les trucs et les machins, on ne va pas s'amuser à les dépenser pour rien. Un artisan qui embauche quelqu'un, s'il fait 5 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il paye quelqu'un qui lui coûte 3 000, comment il se paye lui et comment il paye ses charges? C'est-à-dire que quand un entrepreneur de petite taille embauche quelqu'un, il faut que la personne non seulement lui rapporte au minimum 2 fois ce qu'elle coûte, mais un peu plus. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est des tracas administratifs, des tracas d'encadrement dont la personne va volontiers se passer. Mais quand vous faites une candidature spontanée, vous montez en avant vos compétences, votre expérience, votre personnalité, et si ça colle, youpi. Parce que vouloir à tout craint accepter un emploi ou prendre un boulot sous prétexte que vous en avez besoin, oui, c'est tout à fait légitime, mais ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner pour vous si l'entreprise ou l'encadrement ne vous correspond pas, ou le poste, ou peu importe, ou l'équipe. Et de la même façon, en face, le recruteur, il va avoir pris quelqu'un qui a les diplômes, qui a l'expérience. Bon, voilà, il est passé par la NPU, il a tout ce qu'il faut. Mais s'ils se sont ratés parce que la personnalité ne cadre pas ou ne serait-ce que le projet de la personne, ce n'est pas le bon, ben, ils vont avoir regretté. Et du coup, ils sont assez échaudés, quoi.
Laurent Caudron, ce premier conseil donc à donner aux chercheurs d'emploi, c'est bien évidemment de se vendre d'abord. Soyez-vous. D'être eux-mêmes, de se vendre et de se vendre spontanément, sans forcément passer par différentes institutions, évidemment pas forcément par Pôle emploi. Et en allant, ça c'est aussi une démarche assez active, en allant chercher les entreprises chez qui on veut postuler. Ça, ça nous permet déjà aussi d'écrémer un peu et de réfléchir à ce qu'on veut faire.
Parce que, bon, donc moi j'ai fait du coaching, donc j'accompagne les personnes. Et moi je réagis face à une personne, pas face à un poste. Et donc, les personnes sont toutes différentes, même si les postes sont identiques.
Mais y compris les diplômes, d'ailleurs, sont parfois tous les mêmes. Et par contre, les gens n'ont pas du tout le même désir.
Vous avez des médecins qui sont tous diplômés. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a des experts comptables, pareil. Pour tout le monde, c'est pareil. Et c'est vraiment, une fois qu'on a le même diplôme, la personne, et donc la personnalité qui fait toute la différence. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez comme travail? Quel est votre idéal? Parce que si votre idéal, c'est de ne rien faire, de ne pas travailler, de râler tout le temps, d'être de mauvaise humeur, restez chômeur parce que personne ne va vouloir vous embaucher. Mais si vous avez quelque chose qui vous plaît, si vous avez choisi votre métier et que vous avez les compétences et l'expérience ou que vous voulez les acquérir, parce qu'on ne sort pas diplômé, expérimenté d'une école ou d'un échec scolaire. Donc, il faut aussi les obtenir et les avoir. Mais même là, la personnalité fait toute la différence. Bah, j'ai un bon exemple. Ma fille, 16 ans, elle est en première et elle a besoin d'argent de poche. Bon, bah, elle a trouvé un boulot. Pourquoi elle et pourquoi pas d'autres? Bah, parce qu'elle y est allée en personne, elle avait préparé son CV, elle a préparé son discours et elle est super dynamique, elle est super souriante. En plus, elle est mignonne, mais elle l'a fait.
Ouais, mais il y a papa aussi qui sait faire derrière, là, qui a dû avoir le bon discours.
Non, bah, oui, bah, je lui ai dit ce qu'il fallait, comment se comporter. Mais après, c'est elle. Comme avec n'importe quel ado, on n'est pas toujours d'accord. Mais il se trouve que pour ça, bah, je lui tire mon chapeau parce que sa personnalité, elle a su la mettre en avant, c'est qu'elle est sympa, elle est dynamique, elle est courageuse, elle est volontaire. Et puis de toute façon, elle ne veut pas faire ça à vie. Là, elle est serveuse, donc ce n'est pas sa vocation. Mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Donc, elle a été appréciée dès qu'elle a fait son essai. Et du coup, bah, ça y est, on lui propose même un CDI. Alors qu'elle s'en fiche, elle est étudiante, ce n'est pas son but.
Donc, ça paraît évident presque que quand on cherche un emploi, il faut être motivé. C'est ça qu'on entend là. Voilà.
C'est mieux, mais pour être motivé, encore faut-il avoir envie de faire ce qu'on doit faire. À savoir, si vous êtes cantonnier et qu'on vous propose un boulot de manutentionnaire, c'est sûr que vous n'allez pas être motivé. Si vous avez une expérience de la vente et que la seule chose qu'on vous propose, c'est d'être préparatrice de commandes, c'est sûr que ça ne va pas vous faire rêver. Donc, c'est vrai, c'est plus difficile. C'est la fenêtre de tir est plus étroite si vous voulez cibler quelque chose qui vous correspond. En revanche, même si tout le monde ne répond pas positivement, votre attitude, votre manière de faire, votre manière d'être va forcément interpeller votre interlocuteur qui aura envie, même s'il ne le peut pas, il aimerait bien, mais il ne peut pas forcément, mais au moins celui qui pourra et qui voudra aura envie de vous embaucher. Savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, dans quelles conditions? Est-ce que vous préférez travailler la nuit, le jour? Est-ce que vous voulez être en équipe, seul? C'est les Chinois, ils sont très forts les Chinois, qui disaient « Si tu ne sais pas vers quelle porte tu navigues, nul vent n'est favorable. » Donc, on peut vous proposer 50 propositions d'emploi. Si ce n'est pas ce qui vous plaît, qu'est-ce que ça vous apporte? À rien. Donc, après, mettez en œuvre, si vous pouvez, de quoi l'obtenir. Alors, ça paraît facile comme ça. Et c'est pour ça, il y a 2-3 jours, j'étais à l'Assemblée Générale de Les Portes de l'Emploi. C'est une association qui se trouve à Portes-les-Valences et qui, en 2014, a accompagné 505 personnes. Et quand je dis accompagner, et c'est là où on n'est pas dans la démarche Pôle emploi, c'est un vrai accompagnement. Ils ont fait un groupe de parole, ils ont un soutien, ils ont des explications. On les accompagne, on les pousse à démarcher les entreprises avec leur CV à la main.
Quelques techniques.
Et ben, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un vrai accompagnement. C'est-à-dire que les personnes les appellent ou viennent les voir et les interlocuteurs des portes de l'emploi se posent et les écoutent et leur posent des questions. D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils ont procédé? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Comment est leur CV? Ah ben, on va refaire votre CV. Est-ce que vous savez faire un entretien? Non. Eh ben, on va se faire des simulations d'entretien. C'est un vrai accompagnement. Alors, bien sûr, tout n'est pas fait à la place des gens, mais en revanche, ça redynamise. Il y a même des cas désespérés de gens qui étaient en surendettement, qui n'avaient pas payé, qui n'avaient plus d'électricité, qui n'avaient plus de chauffage, qui n'avaient plus de voiture, qui n'avaient plus rien. Et bon, alors il faut vous bouger, mais pour vous bouger, il faut d'abord aussi qu'on vous dise, qu'on vous guide vers quoi bouger, comment bouger. Donc c'est une association qui est vraiment formidable. Et donc, bien sûr, c'est un peu loin parce que c'est sur Porte. Ils viennent aussi à Étoile-sur-Rhône. Si ça rapproche un petit peu, vous pouvez les contacter, ils sont sur Internet, donc lesportesdelemploi, toutattaché.fr. Pour les gens qui ont besoin, notamment qui ont pu le ressort de se démener parce qu'ils en ont marre, ils ont été dégoûtés, quoi qu'ils fassent, ça n'a pas marché, ça peut être une très bonne chose de recevoir cet appui, ce soutien, cet encouragement.
Cette situation de recherche d'emploi, et souvent, là, ça vient d'être dit un peu en filigrane, c'est souvent quelque chose qui traîne pendant des années et des années et des années. Alors, on a parlé du premier point, hein, oui, être motivé, avoir envie de se vendre, de se mettre en avant, mais quand même, tu parlais aussi d'avoir fait un petit peu de psychologie ou d'avoir, en tout cas, enclenché une démarche pour toi-même pour devenir coach. À quel moment est-ce que il faut aller flirter avec ces notions-là, avec des personnes qui n'ont plus les moyens mentaux de se remotiver à chercher de l'emploi?
Bah, dans l'idéal, il ne faudrait pas que ça arrive. Mais malheureusement, en France, on a ce fort paradoxe d'être un des pays les plus productifs. Donc, en termes d'heures travaillées, on fait le plus. On est aussi le pays où on a le plus de chômage des jeunes et le plus de chômage des seniors. Donc, ça laisse pas grand-chose au milieu, quoi. Donc, si vous avez moins de 20 ans et si vous avez plus de 50, c'est déjà beaucoup plus dur. Il y aura lieu éventuellement de faire une autre mission pour dire, et si vous créez votre emploi? Parce que là aussi, il y a des choses à faire. Mais par rapport à la démarche psychologique, le problème, c'est que quelqu'un qui est au chômage, qui n'a plus d'argent, ou quasiment pas,
Eh oui.
et qui est au 36e dessous, je ne le vois pas aller se financer une thérapie. Donc,
Le
alors,
serpent se mord la queue.
dans les choses positives, sur Cré, il y a un dispensaire
Oui.
bio, comme le dit le nom, dispensaire, donc pour des tarifs riquiqui en fonction de vos revenus. Donc, je crois c'est dans les ordres de 5 euros quand vous n'avez rien. 5 euros une séance pour de l'acupuncture, pour de l'ostéopathie, pour de l'écoute psychologique, ça vaut peut-être la peine. Le prix par rapport à ce que ça apporte est dérisoire.
Il est dit aussi que parfois c'est important pour l'État de maintenir des gens dans une situation de recherche d'emploi. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, ce n'est pas forcément de la part de l'État. On considère, enfin je dis on, je parle au nom des économistes que j'ai lus quand j'étais petit. Alors, de la part des économistes, ils considèrent qu'il est normal qu'il y ait toujours un volant de demandeurs d'emploi parce que tous les emplois ne peuvent pas être fournis et pourvus en même temps et toutes les personnes ne peuvent pas non plus avoir instantanément, dès qu'elles franchissent le seuil de l'école, avoir trouvé un emploi. Il n'y a qu'en Russie soviétique que ça existait. Sachez que moi j'y suis allé en Russie soviétique, franchement ça m'a pas fait rêver. Hein. J'étais enfant et quand je voyais ce qui se passait et comment les gens étaient traités, non, ils avaient tous un emploi, mais ils n'avaient que ça. Hein. C'est un peu normal qu'il y ait un volant de chômage, mais ceci dit, entre 3 et 5 %, ça suffit. Quand on est à 10, 15, c'est vrai que là il y a un gros problème. Sur l'aspect psychologique, l'entourage, se faire plaisir. Trouver d'autres choses, rencontrer du monde, que ce soit dans des associations, dans des forums, pour le sport, pour des sorties, pour des loisirs, pour la famille. Peu importe, parce que si vous êtes en situation de détresse, de déprime, de mal-être, c'est sûr, vous n'allez pas être crédible face à un employeur. Même un manutentionnaire ou un pompiste, on a besoin qu'il sache faire son travail. S'il met du gasoil à la place de l'essence, s'il laisse les mains sous la presse, ça va servir à personne. Donc non. Donc oui, c'est vrai qu'il vaut mieux aller bien.
Alors ça, ce serait le deuxième point. Être motivé, c'est pas mal. Être en action dans l'associatif notamment et auprès des gens, continuer à brasser. C'est pas parce qu'on est en recherche d'emploi qu'on est tout seul dans sa maison, quoi, pendant que les autres travaillent.
Ben non, enfin si, ça peut, mais c'est pas comme
C'est
ça
pas
que
une
ça
bonne
passe.
solution.
Parce que l'avantage de l'associatif, en dehors d'être gratuit et d'être motivant par les actions qu'il peut mener, c'est aussi rencontrer du monde et être motivé, stimulé, écouter, d'échanger. La nature humaine est une nature d'être grégaire. Donc si on vit seul dans son coin, on n'est déjà plus dans sa nature humaine. Donc le fait de rencontrer du monde, d'être au milieu d'un groupe, ça change peut-être pas le schmilblick, mais ça permet quand même d'exister et donc d'aller un peu mieux. Et si on va mieux, ben on aura peut-être le ressort ou un conseil. Qu'est-ce qui parlait de ça? C'est Jung. Jung parlait de la synchronicité. C'est quand deux choses se synchronisent et arrivent au même moment. Par exemple, vous pensez à un copain depuis quelques jours. Ah, faudrait que je l'appelle, ah, faudrait que je l'appelle. Le téléphone sonne. Tiens, c'est lui qui vous appelle. C'est un exemple. Ou alors, vous pensez à. Alors là, je ne sais vraiment pas comment poser mon parquet, j'ai pas la moindre idée de machin. Et puis soudain, vous tombez à la télé sur oh, ben pour poser le parquet, c'est tout simple, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. C'est encore une synchronicité. Les choses, bizarrement, se passent au bon moment.
C'est parce qu'en fait, on l'a dans la tête tellement qu'on s'y
Voilà.
intéresse, quoi. Comme toutes les
Quelque.
femmes enceintes qui voient qu'il y a plein de femmes enceintes autour d'eux, alors que
Par
d'habitude, ils ne
exemple.
le voient pas.
Alors, ça
Ça
va au-delà de
parle.
ça. Ça, c'est un aspect psychologique. Quand vous regardez sur un type de voiture, vous ne voyez que cette voiture-là. Quand vous êtes enceinte ou quand une femme a une robe neuve, elle va avoir toutes les mêmes robes sur toutes les nanas. Ça, voilà, c'est parce qu'on a un filtre qui se met en place. La
Ah,
synchronicité,
d'accord, ouais.
c'est plus l'aspect magique des pensées qu'on émet et qui, quelque part, font résonance et qui nous reviennent. Quelqu'un aussi peut soudain nous lancer « Ah, ben tiens, moi, j'ai pensé à ça ou j'ai lu ça » Et ça peut vous faire tilt pour une idée, pour un concept, pour une proposition à faire à une entreprise. Parce qu'il faut voir que la France est un pays génial, mais en France, il est très difficile de licencier. Donc, c'est bien quand on est salarié, et quand on est employeur, ça l'est beaucoup moins. Donc, comme
et quand on est en recherche d'emploi, on se dit
quand on est en recherche d'emploi, le type qui voudrait bien embaucher, mais il n'est pas sûr de son chiffre d'affaires et puis il n'est pas sûr de pouvoir garder le poste, s'il vous prend, il est coincé. Donc, ben, il va hésiter, il va passer par l'intérim, ce qui est aussi une solution, soit dit en passant. Ou alors, il faut vraiment que vous lui fassiez une proposition. C'est-à-dire que bah, vous acceptez de travailler pas à temps complet. Ou alors, vous acceptez d'abord un CDD pour faire vos preuves. Ou alors, vous proposez, ben tiens, dans l'activité que vous avez, vous pouvez éventuellement passer par une société de portage. Donc, vous ne lui coûtez rien en termes d'administratif et de charges sociales. Vous lui faites une facture, il paye et il est tranquille. Et il est moins responsable, en tout cas vis-à-vis de la loi, sauf si c'est votre seul employeur. Et il est moins responsable de vous, il n'est pas enchaîné. Donc, on a vu le premier aspect, savoir ce que vous voulez, comment vous voulez que ça se passe. Le deuxième aspect, faut agir donc de diverses façons. Et pour agir, après, il vous faut un CV qui tienne la route et une lettre de motivation qui soit motivante pour l'autre. C'est censé exprimer votre motivation, mais ça doit motiver le recruteur.
Quelques clés.
Là encore, il a besoin d'être rassuré. Alors, sur le CV, moi, j'ai vu des CV qui sont très gentils, mais voilà, les plus longs...
Très gentils.
Oui, malheureusement, parce que souvent, ce sont des petits jeunes. J'ai 52 ans, donc pour moi, ce sont des petits jeunes, ils ont 18-20 ans. Ils ont un CV qui est long, qui fait presque 2 pages, sauf qu'ils n'ont fait que leurs études. Donc, j'ai fait la troisième à tel endroit, j'ai fait ma seconde à tel endroit, et puis en première, j'ai fait ça, et puis j'ai fait un mini-stage de 15 jours dans lequel j'ai rien appris. Parce que comme ils n'ont rien à dire, ils sont obligés de le délayer. Un CV, curriculum vitae, ça doit, en quelques mots, sauter aux yeux du lecteur. Qu'est-ce qui vous caractérise et en quoi vous avez les compétences qu'il recherche ? Ma petite, elle sait tenir une caisse, elle sait gérer du monde, elle sait gérer des enfants turbulents, elle sait animer des groupes, elle sait faire des tas de choses. Si elle dit « je suis serveuse », ça passionne personne. Mais si elle met en avant qu'elle sait faire tout ça et qu'elle en a fait la preuve et la démonstration et que ça s'est très bien passé, elle a déjà quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre, en plus d'un restaurant, d'un bar ou d'un centre pour enfants.
C'est là qu'on peut mettre donc plein de choses qui ne sont pas particulièrement diplômantes ou alors qui n'ont pas été une vraie expérience d'entreprise dans ce CV.
Oui, parce que recherche l'employeur ? Il cherche, si vous devez travailler sur une machine-outil, bien sûr, il faut que vous connaissiez cette machine. Mais au-delà de ça, est-ce que vous êtes capable de prendre des initiatives ? Est-ce que vous êtes capable de la paramétrer ? Est-ce que vous êtes capable d'aider un collègue qui est coincé parce que vous savez d'autres choses, vous savez programmer, vous savez ceci, cela ? Est-ce que vous avez des notions d'hygiène, sécurité ? Il y a des tas de choses qui, pour une entreprise, vont faire une richesse que vous ne soupçonnez pas forcément vous-même. Après, il y a votre personnalité. Est-ce que vous êtes un mec sympa ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de dynamique ?
Aime bien se le dire, non ?
Oui, mais c'est pas vrai. Moi, je sais que je suis grognon une bonne partie du temps. Donc,
ça, tu le mets dans ton CV ? Grognon une partie du temps.
Alors, justement, et ça va pas être dans le CV. Ça va être lors des entretiens. Vous avez forcément des défauts. Youpi, ne cherchez pas à cacher vos défauts. Vos défauts, vous devez les exploiter comme vos qualités. Parce qu'il y a toujours des questions pénibles. Pourquoi est-ce que je vous choisirais vous ?
Choisirais-vous.
Ne sautez pas sur la question. Parce que ceci, cela. Non, ça fait trop préparé. Pourquoi est-ce que vous me choisiriez ? Parce que en plus d'être compétent pour le poste, je peux vous apporter ceci. En plus, j'ai l'expérience de cela. Et j'ai des idées parce que j'ai déjà travaillé. Et j'ai constaté dans votre entreprise que peut-être il y aurait quelque chose que... Vous apportez quelque chose de plus. Ça, c'est pour l'entretien. Et vous avez des défauts ? Oui, j'ai des défauts. Je suis paresseux. Ah bon ? Oui. Donc, quand je dois faire quelque chose, je préfère le faire vite et bien plutôt que de passer des heures dessus. D'accord. C'est un défaut qui devient vite une qualité.
Oui,
vous êtes bordélique.
Rigolo, d'ailleurs, de le
tourner. Vous êtes bordélique ? Oui, mais pour un magazine, ça ne va pas. Oui, c'est bordélique si on veut. En fait, moi, ce que j'appelle bordélique, j'ai 3000 vers références. Je n'ai pas besoin d'un dossier pour les retrouver. Je suis bordélique parce que moi, ça me va. Je sais où c'est. Tout compte fait, le type, il va me faire gagner du temps. Mon atelier, il aura tout de suite les pièces qu'il cherche. Donc, si vous avez des défauts, youpi, mais que vos défauts représentent aussi une qualité. Le premier point, c'était le CV. Donc, il faut qu'il soit clair et percutant. Vous avez de vraies expériences. Vous n'avez rien fait, vous avez arrêté l'école en troisième, vous avez arrêté votre BEP, vous n'avez rien. Vous avez quelque chose. Vous avez découvert un métier, vous avez découvert des outils, des machines, vous avez découvert une relation avec vos collègues, avec vos potes. Peu importe, vous avez quelque chose qui vous différencie, qui peut être positif pour l'entreprise.
Même vous êtes parti en voyage, vous avez fait du ski pendant 2 saisons. Non, mais c'est vrai, c'est les choses qui...
Oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez fait du ski pendant 2 saisons. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un glandu qui aimait le ski ? Ou est-ce que ça veut dire que vous avez su trouver des financements ? Vous avez su vous en sortir avec peu de choses ? Vous avez su trouver à vous héberger ? Vous avez su rendre service et du coup, on vous a convoyé, on vous a hébergé gratuitement ? C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc ça, c'est le CV. La lettre de motivation, pareil. J'ai accompagné un jeune homme qui avait un BTS compta. Sa passion, c'était les bagnoles. Les bagnoles et la mécanique. Je suis d'accord, mais comment tu dis que c'est ta passion ? Mais
pourquoi la compta ?
C'est comme les gens qui disent dans leurs lettres, oui. Je suis motivé. D'accord ? Qu'est-ce qui me le prouve ? Moi, employeur, j'ai besoin d'être rassuré. Donc, tu me dis que tu aimes la mécanique, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que depuis que j'ai 14 ans, c'est moi qui change les plaquettes de frein de mes parents, c'est moi qui change les roues, c'est moi qui fais les révisions, c'est moi qui change les fils, qui fait les vidanges, j'ai même vidangé le carter de ceci, et puis j'ai même fait le liquide de refroidissement de patin, et puis j'ai même changé la climatisation, ce qui est un gros schmilblick. D'accord, il s'est bricolé, et au-delà de ça, c'est qu'il est capable même de faire retourner une voiture qui est immobilisée depuis 5 ans. Et donc, ce garçon qui était fan de voiture, et qui faisait de la compta parce qu'il avait fait des études pour avoir un diplôme, pour avoir un boulot. J'ai dit, mais toi, il ne faut pas que tu fasses de la compta. Ah oui, mais je sais faire que ça. Mais non, tu peux faire de la compta, d'accord, c'est un boulot. Et si tu faisais ça dans une concession ou dans un garage ? Toujours est-il qu'à l'arrivée, il a fait, dans l'entreprise où il était, de la compta, mais comme il n'avait pas besoin d'un comptable à temps plein, bah, il s'est retrouvé plus ou moins à l'accueil, à conseiller les clients, à discuter avec les mecs de l'atelier. Et rapidement, il s'est rendu indispensable parce qu'il était sympa, il était serviable, il adorait la mécanique. Il pouvait aussi bien expliquer à un client le problème de sa voiture par rapport à l'atelier que dire à grosso modo combien de temps ça allait prendre, que d'aider les mecs à l'atelier quand il y avait un coup de bourre pour changer un machin, que faire la compta, que de répondre au téléphone. Mais ce mec-là, j'ai une concession, je l'embauche, c'est évident.
C'est évident, ouais. Et puis en plus, il prend ta place dans 5 ans, quoi.
Ouais, bravo.
Ça, c'est clair.
Mais donc, au départ, il était en recherche d'emploi parce qu'il n'avait qu'un BTS de compta. Mais purée, mais il avait une personnalité. Mais c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour des tas de gens. Sauf que les gens, la plupart, bah, ils sont un peu désespérés, ils ne trouvent pas, ils ne savent plus, ils ont que des refus et donc ils doutent d'eux-mêmes. C'est logique, mais c'est dommage parce qu'il y a forcément quelque chose qu'ils peuvent apporter à quelqu'un.
Cette troisième phase, donc, dans la recherche d'emploi, avec ces trois outils un peu barbares que sont CV, lettre de motivation, qui donc impose qu'on doive dire que je suis motivé, et donc l'entretien qu'on a abordé par la suite.
Oui, il y avait une jeune femme aussi que j'ai accompagnée, et je ne peux pas dire son nom, bien sûr, mais elle était vice-championne d'Europe d'une discipline sportive.
Soyons vagues. Elle n'est pas morte dans un hélicoptère, c'est bon.
Non. Et donc, comment dire sa motivation ? Bah, c'est évident. Quand on est capable d'arriver au niveau des championnats d'Europe à plusieurs années consécutives et d'arriver deuxième à un championnat d'Europe, mais il faut une motivation monstrueuse pour s'entraîner encore, faire des sacrifices, y sacrifier ses week-ends, ses vacances...
Manger sainement, oh là là.
Et avec un régime qui était...
pas sortir.
Ça se fait pas tout seul, quoi. Ouais. Donc, dire qu'elle est motivée, qu'elle est capable de faire des efforts et de faire des sacrifices, bah, elle a vite fait de le démontrer.
Ouais. Donc, il vaut mieux écrire simplement, voilà, je fais ça, dans mon hobby, je passe du temps à faire ça, ou je suis un grand randonneur, par exemple. C'est vraiment des choses presque pragmatiques, alors.
Voilà, concret. Des choses concrètes et que vous allez quand même devoir transposer au monde de l'entreprise parce que bon, c'est bien quand on les aide quand même. N'oubliez pas qu'il a besoin d'être assuré, le recruteur. C'est quoi pour vous la randonnée ? C'est le goût de l'effort, c'est le goût de la nature, l'effort. C'est l'endurance, c'est le fait de pouvoir être solidaire avec le groupe, c'est pouvoir porter des charges pour les autres. Tout ça en entreprise, ah oui, il est capable de faire des efforts, ah oui, il est capable de tenir longtemps, ah oui, il est capable d'aider ses collègues, ah oui, il est capable d'organiser une randonnée et de savoir les points où il faut s'arrêter pour faire le plein de dos, de bouffe, de trucs. D'accord, donc il a quelque chose à apporter dans l'entreprise.
Est-ce qu'il y aurait une quatrième étape ?
La quatrième étape, tout ça, vous êtes resté plus ou moins dans votre coin. La quatrième étape, c'est de la confronter avec l'entrepreneur ou les entreprises que vous visez.
Enfin, on sort du bois.
Et oui, et ce ne sont pas les entreprises qui vous cherchent. Elles cherchent à remplir un poste, une fonction, un besoin. Mais vous, vous cherchez l'entreprise dans laquelle vous voulez le faire.
C'est bien de le dire comme ça, parce que souvent, on pense que oui, la NPE, enfin, Pôle emploi notamment, met en avant une recherche. C'est sûr, l'entreprise est en train de chercher. Mais en fait,
oui, l'entreprise est en train de chercher.
Elle ne cherche pas de personne, elle s'en fiche un peu.
Oui, qui que ce soit, pourvu que ça remplisse les cases. Sachant qu'en plus, si c'est arrivé à part Pôle emploi, c'est souvent en désespoir de cause de la part de l'entreprise.
On n'a pas trouvé, alors.
On n'a pas trouvé, donc on va en passer par là, ça ne coûte rien. On sait qu'on va avoir de plus en plus, de nos jours, beaucoup de candidatures. J'étais sur Toulouse quand j'avais une de mes entreprises et je cherchais une assistante commerciale. Je ne sais pas, j'ai dû avoir 30-35 CV. Mais j'avais qu'un poste à pourvoir. Hein. Donc déjà, entre les fautes d'orthographe, les trucs illisibles, incompréhensibles, les études qui n'avaient rien à voir, ou la pin-up qui se met avec un grand décolleté, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin d'une nana qui bosse, je n'ai pas besoin d'une nana qui est sous le bureau, donc ça ne m'intéressait pas.
Mais ça aurait pu, ceci dit. Hein.
Oui, sûrement, ça existe. Justement, sur Toulouse, je ne sais pas si... Bon, ouais, on doit pouvoir en parler.
C'est Toulouse, c'est loin.
Ouais, c'est loin en distance et c'est loin dans le temps. J'avais travaillé une fois pour les McDo. McDo, là-bas, il en avait plusieurs. C'était une grosse boîte. Et j'avais formé les gens sur la comptabilité, puisqu'à l'époque, je sortais de l'audit. Et j'avais constaté que les comptables féminines étaient particulièrement mignonnes. Et ça m'avait surpris, et bon, agréablement. Et les garçons étaient plutôt mignons aussi. Bon, très bien. Et quelques temps après, je suis amené à aller au siège, qui était place du Capitole. Et là, la fille à la réception, mais impressionnant, quoi. C'est une gravure de mode. Elle est magnifique. Souriante, belle comme tout. Bon. Et je vais dans les bureaux et c'était que ça.
Que des beaux.
Que des beaux et surtout beaucoup de nanas et que des franchement mignonnes hors du commun. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je crois que c'est 3-4 mois après, c'est paru dans la presse que le directeur était poursuivi pour harcèlement sexuel. Forcément, hein, il recrutait, on ne sait pas pourquoi.
Alors, on en était à cette quatrième étape, Laurent Caudron. Aller se montrer aux entreprises, aller chercher soi-même son poste.
Quand vous savez quel métier vous voulez faire et que vous déterminez en fonction de votre personnalité le type d'entreprise qui pourrait le mieux vous correspondre ou le type de poste qui pourrait le mieux vous correspondre, vous êtes déjà armé. Vous savez déjà qu'un bon paquet d'entreprises ne vous intéresse pas. Donc, pas de perte de temps. Vous allez cibler celles qui vont répondre ou correspondre le plus à ce que vous cherchez. Et dans ces cas-là, vous leur écrivez ou vous allez les voir. Alors bien sûr, il y a toujours le barrage de la secrétaire ou de la personne à la réception. Après, tout dépend de la taille de l'entreprise. Moi, j'avais une ruse. Quand je voulais rencontrer des gens, souvent, je leur envoyais un courrier ou deux, ou trois, ou quatre, ça dépend, du temps. Et quand je les appelais derrière, quand j'appelais et j'avais le barrage de la secrétaire, ils vous connaissent. Oh ben, s'il ne me connaît pas, c'est qu'il a la maladie d'Alzheimer avec les dossiers qu'on a en cours. Et j'étais vrai, je ne mentais pas. Il avait effectivement, je lui avais envoyé des dossiers ou des courriers, machin. Il me connaissait. Oui, il devait me connaître puisque je lui avais écrit plusieurs fois. Donc, je dis, et maintenant, j'aurais besoin de le rencontrer pour en discuter. Attendez, je vais voir son agenda. Donc, bien sûr, il faut ruser parfois parce que l'assistante, elle est là pour protéger le cadre qui sinon est débordé, il est sans arrêt harcelé parce que des demandes, malheureusement, que ce soit pour des fournisseurs, des vendeurs, des prospecteurs de ceci ou cela ou des gens qui cherchent un boulot, il en pleut. Donc, on est obligé de ruser pour aller plus loin. Et puis, parfois, ça ne suffit pas. Mais déjà, vous aurez fait ce qu'il faut. Si vous arrivez déjà à avoir quelque chose qui ressort dans votre CV, dans votre lettre de motivation, si en plus, vous vous êtes présenté une fois, deux fois, trois fois, en demandant, mais à quelle heure il serait plus disponible? Parce que moi, un grand classique, quand j'étais consultant, indépendant, c'était de rencontrer les dirigeants. J'en avais rien à faire de la réceptionniste. Elle ne pouvait rien pour moi. Donc, il fallait que je rencontre les dirigeants. Donc, une de mes ruses, c'était soit j'arrivais tôt le matin, soit j'arrivais après 18 heures. En général, après 18 heures, il reste quelques cadres et le patron. C'est très bien, c'est eux que je voulais rencontrer. Donc, il y a peut-être ça aussi à faire.
Être rusé, plus, ça met des bons points. Parfois, on se dit, celui-là, il a bien cherché. Donc,
Malheureusement, oui, le culot paye. Alors, il faut pas
malheureusement,
non. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas être désagréable, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Mais marquer qu'on a envie, qu'on veut, qu'on va se donner les moyens de réussir dans la boîte, la preuve, on se donne les moyens déjà de le rencontrer, c'est un bon point pour vous. Après, il y a les salons.
Les forums.
Alors, c'est le genre d'endroit où il faut aller. Alors, si on en croit Pôle emploi, il faut y aller avec des CV. C'est peut-être vrai. Ça marche pour certains types de fonctions ou pour certains besoins, s'ils ont un besoin exprimé. Moi, en général, quand j'allais sur les salons, c'était pour prendre des cartes de visite. Je discutais avec les gens, je faisais un tour rapide Puis une fois que j'avais trouvé les une ou deux personnes ou entreprises qui étaient intéressantes, bah, j'allais discuter avec eux. Et une des questions qui fait plaisir en général aux gens, c'est comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre métier? Comment ça se passe pour vous au quotidien? Parce que les gens adorent parler d'eux. Ils vont vous donner une masse de renseignements concernant l'entreprise, le boulot, l'emploi, les besoins, les perspectives. Il est déjà arrivé que quelqu'un postule et qu'on le recrute 3 à 6 mois après parce que tout compte fait, les choses avaient évolué. Et le fait de démarcher les gens, de leur écrire, d'aller les voir, de les appeler, ça marque les esprits. Je m'appelle Caudron. Quand j'étais petit, on me traitait « ouais, Chaudron, Chaudron ». D'accord, c'était pas plaisant. Mais j'ai constaté que Caudron, comme un chaudron mais sans H, ça marque les esprits. Eh bien, si vous voulez qu'on se rappelle de vous positivement, hein, n'arrivez pas habillé comme un clown, n'allez pas balancer des pétards dans le hall d'entrée de leur entreprise, ça ne sera pas forcément la bonne image. Mais si vous marquez les esprits d'une manière positive, eh ben, on pensera à vous. Moi, je le voyais quand j'étais cadre à l'armée, j'étais sous-lieutenant, et tous les 2-3 mois, j'avais une nouvelle fournie de petits jeunes qui passaient et que je devais former. 33 gus qui passent pendant 2 mois, eh ben, bizarrement, au bout d'un mois et demi, quand on doit faire les évaluations, certains on sait qui c'est en bien, certains on sait qui c'est en mal, et il y en a toujours sur les 30, 5-6 qui sont complètement invisibles.
Ouais. Et ben cela, même oubliés dans le groupe totalement.
Complètement. Ouais, ouais, ouais. Leur nom ne nous dit rien, et si on n'a pas un trombinoscope avec la photo, et même parfois, bon, il était avec moi ce mec-là. Ça veut dire que quand on veut des moutons, c'est super. Mais quand on veut un salarié ou quand on doit recruter quelqu'un, si vous êtes couleur muraille, que rien ne vous distingue des autres et qu'en plus vous êtes timoré, timide et vous n'osez pas et que vous êtes servile, on va risquer de se rappeler de vous, mais pas en bien. En revanche, si vous vous démarquez, bah, c'est toujours ça de plus. Il n'est pas dit que ça va marcher à tous les coups, mais vous avez plus de chances de réussir que si vous êtes invisible.
Motivation, personnalité, partage avec les autres, et puis mise en avant de son parcours personnel. Et de ses atouts. Voilà les clés du bon rechercheur d'emploi, si on peut dire ça comme ça.
Après, là, on était centré sur la personne. Maintenant, le bon rechercheur d'emploi, comme le titre l'indique, il recherche. Et donc, aujourd'hui, c'est merveilleux. On a un schmilblick avec des écrans, puis des claviers, et puis on tape, et puis il y a des choses qui apparaissent. Donc, avec Internet, on trouve énormément de renseignements. Donc, sur le nom de l'entreprise, le nom des dirigeants, s'ils ont plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires éventuel. Alors, sur les plus petites, c'est difficile, mais sur bien des entreprises, on trouve des tas d'informations. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes informé, si vous savez de quoi vous parlez, la personne, elle se dit « Ah, celui-là, il a fait l'effort. Ah, celui-là, je ne vais pas devoir lui réciter ce que j'ai dit aux 3 précédents. Ah oui, et vous avez participé à ça. » Tac. Et là, la personne parle d'elle et elle va adorer. Donc déjà, vous l'aurez marqué parce que vous saurez l'écouter. Donc vous la valorisez, c'est bien.
Ouais, et puis en inverse, du coup, l'entretien, c'est plus... C'est plus le chercheur qui a l'entretien.
Ça m'est arrivé une fois, c'était assez rigolo à la fin. Parce que le type, c'était « Où j'en étais ?» pourquoi on est là? Et c'est vrai qu'on avait passé une demi-heure, il avait parlé. Mais pas comme d'habitude, en me racontant le poste à pourra, le profil qu'il recherchait, mais en me racontant lui. Lui, son parcours, lui, sa vie, lui, ce qu'il faisait, lui, ce qu'il espérait, ce qu'il attendait, ce qu'il voulait, etc. Là, j'en parle dans le manager coach.
Et c'est quel éditeur?
C'est moi.
Bien.
C'est Wiz World, mais bon, derrière Wiz World, c'est moi. Donc, dans ce bouquin, entre autres, je dis à un moment, j'étais en tant que consultant et je voulais rencontrer les dirigeants. Et j'avais rendez-vous avec eux à 14h. Donc j'arrive à 14h, moins 5, moins 10. Et il y avait déjà pas mal de salariés qui étaient là. Et on attend, 2h, bon. 2h05, bien. 2h10. Et soudain arrive une grosse Audi noire. Ça doit être une A6 ou une A8. Et les types qui étaient autour de moi, donc les employés, disent « Ah, voilà la mafia qui arrive. » Et les autres qui font « Et je regarde autour de moi et les types n'avaient pas l'air vraiment contents de leur direction. Il y avait une ambiance exécrable dans l'entreprise. Les salariés conspuaient les dirigeants qui étaient hautains, qui étaient odieux, qui étaient méprisants et qui, quelque part, étaient en train de torpiller leur boîte. Oui, d'accord, ils allaient gagner encore de l'argent pendant 4, 5, 5, 7, 8 ans. Mais avec une ambiance pareille, ça ne pouvait pas continuer. C'est un gros avantage quand on cherche un boulot. On a une bouche, 2 oreilles, donc a priori, on est plutôt fait pour écouter que pour parler. Donc, posez une question et écoutez.
Et enfin, qui tente rien n'a rien. Laurent Caudron, on arrive au terme de cette longue interview sur la recherche d'emploi. Évidemment, on ne peut pas tout aborder comme ça en 50 minutes et c'est déjà pas mal. Et
sinon, après, si vous avez des CV ou des lettres de motivation, vous pouvez toujours les faire passer à la radio. Et puis, soit on en discutera, soit on les prendra comme base d'exercice ou de réflexion. Ça peut être toujours intéressant.
Ça peut être une idée. Et puis, il va se faire un petit cycle, hein, comme ça. On va revenir sur plusieurs sujets ensemble à l'antenne.
Ben, j'espère que ça aidera et que vous irez mieux après tout ça et que vous saurez comment faire.
En parlant d'Internet, tu as un site où on peut voir
encore
ce que tu fais?
Bon, ben alors... semaine prochaine, c'est promis, je m'y mets.
Bon, ben alors en attendant, écoutez la radio et puis la suite pour bientôt. Salut Laurent, à bientôt.
Au revoir, merci.
Interview. Ok, le beurre. Interview. L'interview du jour.